Bonjour et bienvenue dans Le cinéma, c'est la vie en mieux, le podcast qui va vous donner envie de retourner au ciné. Je suis Jérôme Vermelin et je vous propose de partir avec moi à la rencontre des acteurs, des réalisateurs, des producteurs et de tous ceux qui font l'actualité du 7e art. Le cinéma, c'est la vie en mieux, parce que les émotions y sont plus belles, plus grandes, plus fortes, plus extrêmes parfois aussi. Pour certains, c'est un refuge, pour d'autres une religion. Et si le cinéma, au fond, nous aidait à aller bien ? Dans cet épisode, mon invité est le réalisateur français Florian Zeller pour son premier film, The Father.
Ce que je trouve bouleversant au cinéma, c'est de pouvoir vivre des expériences qui ne sont pas les siennes et qui deviennent les siennes, c'est-à-dire on se les approprie. Et en fait, on agrandit notre expérience de la vie, notre connaissance de la vie, ça ouvre le cœur et l'âme. Et je pense que c'est le grand mérite du cinéma, c'est que ça élargit notre propre vie.
Florian Zeller n'avait que 23 ans lorsqu'il a publié son premier roman, Neige artificielle. Si le milieu littéraire voit en lui l'un des écrivains les plus prometteurs de sa génération, cet élève brillant de Sciences Po va s'écrire un chemin singulier grâce au théâtre. Deuxième volet d'une trilogie très personnelle, Le Père, créé avec Robert Hirsch en 2012, va remporter 3 Molières et faire le tour du monde. Son auteur aurait pu s'arrêter là, sauf que non. Au printemps 2019, une adaptation cinématographique est annoncée, avec Florian derrière la caméra et le légendaire Anthony Hopkins dans le rôle principal, celui d'Anthony, un retraité londonien qui refuse toutes les aides soignantes que sa fille Anne, jouée par Olivia Colman, tente d'imposer à ses côtés. Au fil des minutes, la réalité bascule de manière imperceptible pour son personnage principal comme pour le spectateur, captivé par ce drame bouleversant à la lisière du fantastique. The Father a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et de la meilleure adaptation pour son auteur, que j'ai retrouvé à Paris à quelques jours de la sortie du film en salle.
Date of birth?
Friday, 31st of December, 1937.
You're living with your daughter at the moment, is that right?
Yes, in my flat.
Bonjour Florian Zeller.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Vous vous sentez un petit peu... C'est déjà loin les Oscars ou vous êtes encore sur un petit nuage quelques semaines après?
C'était il y a 3 semaines et non, je suis toujours dans la joie et la gratitude que ça ait eu lieu. Mais c'est vrai que je suis surtout... concentré là sur le fait que le film va sortir, sur ce rendez-vous en fait que j'attends depuis longtemps.
Alors c'est un film qui a d'abord été une pièce de théâtre à succès, une pièce qui comptait beaucoup pour vous. On a beaucoup parlé du film. Moi, je voudrais qu'on revienne quelques années en arrière et vous m'expliquiez un petit peu la genèse de cette histoire, de ce portrait d'un homme qui perd progressivement la mémoire et ses moyens. Est-ce que vous vous rappelez des premiers mots que vous avez couchés sur le papier pour raconter cette histoire? Ça vient d'où, en fait, le père?
Le père, c'était une pièce de théâtre que j'ai écrite, en effet, il y a 10 ans. Je l'ai écrite pour un acteur que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup, qui est Robert Hirsch. Et j'ai écrit cette pièce pour aller vers lui, sans vraiment savoir ce que j'allais écrire. Mais c'est vrai qu'en cours d'écriture, j'ai quelque part convoqué le fantôme de ma grand-mère, qui est la personne qui a été très importante pour moi, que j'ai aimé beaucoup, et qui a commencé à souffrir de ce qu'on appelait de démence sénile quand j'avais 15 ans. Donc je connaissais un petit peu ce processus de dégénérescence, la douleur que ça implique, et la singularité de ceux qui se tiennent à côté, qui accompagnent et qui se retrouvent impuissants. Et je pense qu'en écrivant cette pièce, j'essayais de me réapproprier un peu cette histoire-là, mais je savais aussi que malheureusement, je ne suis pas le seul à connaître ça, et que tout le monde a une grand-mère, que tout le monde a un père, et que tout le monde connaît ou connaîtra cette situation dans laquelle il faut se tenter de traverser ce dilemme, de se dire qu'est-ce que je fais des êtres que j'aime quand ils commencent à perdre leur repère. Donc il ne s'agissait pas en fait de raconter mon histoire, mais plutôt de partager des émotions dont je sais qu'elles sont communes à chacun d'entre nous, parce que ça sert à ça, le théâtre et puis le cinéma, à nous ramener à ce qu'on a de commun avec les autres que soi, ou de ce sentiment qu'on appartient à quelque chose de plus large que soi-même.
La pièce a été jouée en France, elle a été jouée à l'étranger, elle a été jouée en anglais. À quel moment est venue l'envie d'en faire un film ?
Quand j'ai écrit la pièce, je pensais pas du tout qu'il y aurait un film derrière, et j'étais même pas sûr que le public serait disponible pour ce genre de trajectoire émotionnelle. Et j'ai été surpris, mais aussi très ému de voir la réponse du public en France d'abord, et puis après dans beaucoup d'autres pays. C'était toujours la même réponse, malgré les différences culturelles. C'est-à-dire que les gens nous attendaient après pour nous dire bravo, mais pour partager leur propre histoire, pour raconter leur propre histoire. Il y avait quelque chose de cathartique qui était très évident et qui sincèrement m'a vraiment bouleversé. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire ce film, parce que je sentais que ce texte prendrait sa pleine dimension grâce au cinéma, grâce au langage du cinéma. La singularité du père, c'était de mettre vraiment le spectateur dans une position unique, comme s'il était lui-même dans un labyrinthe, comme au fond, comme si on était dans la tête de ce personnage principal qui perd son rapport au réel. Et je voulais que ça soit pas simplement une histoire, pas simplement l'histoire d'un homme qui perd ses repères, mais une expérience de ce que ça pourrait vouloir dire de tout perdre, y compris en tant que spectateur, ses propres repères. Et mon ambition, c'était de jouer avec ce sentiment de désorientation. Et je sentais que le cinéma, par sa grammaire, son vocabulaire, permettait ou pourrait faire en sorte que cette expérience soit encore plus immersive, encore plus troublante et j'espérais encore plus bouleversante. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire ce film.
Alors, avant le choix de l'acteur, qui est un sujet impossible à ne pas aborder, moi je voudrais parler de la mise en scène et peut-être même avant de la mise en scène, du travail d'adaptation, parce que vous avez aussi gagné un Oscar pour ça. La pièce, c'était un dispositif de mise en scène bien particulier. Le cinéma, c'en est une autre version, on va dire. Est-ce que pour vous, penser le cinéma, ça a été aussi évident que penser le théâtre ?
En tout cas, ce qui était très clair pour moi, c'est que je savais ce que je ne voulais pas faire et je ne voulais pas filmer une pièce de théâtre. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire ce que le cinéma permet de faire et quelque part ce que seul le cinéma permet de faire. Et il est vrai que quand on pense à une adaptation d'une pièce de théâtre pour un scénario de cinéma, en général, on a les premières idées que l'on a, c'est toujours d'écrire de nouvelles scènes à l'extérieur pour se tenir aussi loin que possible du processus théâtral et pour faire quelque chose de cinématographique. Mais ici, très tôt dans le processus d'écriture et d'adaptation, j'ai décidé de ne pas faire cela, c'est-à-dire de rester dans un même espace, dans un même appartement, mais un espace qui ne cesse de changer pour devenir une sorte d'espace mental et que ça soit une proposition cinématographique. Et ce qui m'importait, c'est que le spectateur soit dans une position active, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de s'asseoir et d'assister à une histoire déjà racontée passivement, mais de véritablement tenter de s'emparer de la narration pour qu'elle fasse sens, comme si le film était une sorte de puzzle et qu'il convenait de jouer avec chacune des pièces de ce puzzle pour tenter de trouver une combinaison qui fasse sens. Ça m'importait beaucoup, de mettre le spectateur dans cette position assez inédite. Et pour ce faire, j'ai beaucoup utilisé le décor, justement. C'est-à-dire que j'ai tourné tout le film dans un studio. Parce que pour un metteur en scène dans un studio, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut changer un mur, on peut changer les proportions, les couleurs très facilement. Et je voulais utiliser toutes ces possibilités pour que le décor soit pas simplement un arrière-plan, mais que ce soit véritablement une sorte de labyrinthe. Et que cela renvoie le spectateur à cette expérience du labyrinthe, à cette expérience de la désorientation. Et c'était tout le principe de cette adaptation.
C'est vrai qu'on s'y perd, hein, par moment, même de plus en plus en tant que spectateur. Déjà, les premières fois où vous jouez un peu avec les repères temporels, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Il m'a fait un saut dans le temps, il y a un problème de montage, on est perturbé en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'agissait de briser la ligne de l'espace et de briser la ligne de cohérence du temps. Et par exemple, au début, on est dans l'appartement d'Anthony, on le reconnaît, on reconnaît son espace, ses affaires, et il n'y a pas de doute. Et puis petit à petit, tout au long du film, toujours en arrière-plan, et bien, ce décor subit des métamorphoses. Parfois, c'est presque rien, on ne peut même pas véritablement identifier ce qui s'est passé, mais on a simplement l'impression que quelque chose a changé. Et ces changements prennent de plus en plus d'espace au fur et à mesure du film, de telle sorte qu'on en vient à reconnaître l'endroit où se passe cette histoire, tout en doutant de ses propres sensations. Et ce que je voulais retrouver, c'est cette impression d'être étranger dans son propre appartement, qui est la position émotionnelle de ce personnage principal.
You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now.
It's me.
And my daughter is very interested in it.
Alors, le personnage principal, c'est Sir Anthony Hopkins. D'abord, c'était lui ou personne d'autre ?
C'était... j'ai rêvé de ce film avec Anthony. Anthony Hopkins, il a été vraiment consubstantiel de ce rêve. Et j'avais conscience que ce n'était pas un rêve facile à réaliser. Mais mon intuition était vraiment... Et ma conviction était vraiment très, très forte. Ça m'a poussé à croire à cette hypothèse-là, même si elle semblait légèrement irréaliste. Et je me suis dit, tant qu'il ne m'a pas dit non, peut-être qu'il dira oui. Et donc, j'ai voulu vraiment tenir cette ligne d'espérance, parfois en dépit du réel. Mais pour moi, c'est le plus grand acteur vivant, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Et je sentais que pour cette histoire-là, il serait particulièrement puissant, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un homme qui tombe. Et je me disais, plus on commence à une certaine altitude, du moins dans notre imaginaire collectif, plus cette chute serait déstabilisante et troublante. Et on connaît un acteur à travers tous les rôles qu'il a interprétés. Et Anthony, c'est, pour moi du moins, c'est l'homme de l'intelligence extrême, du contrôle des situations et du langage. Et je me disais que de voir cet homme-là, précisément, perdre le contrôle des situations, ce serait d'autant plus déstabilisant et troublant.
Et quelqu'un m'a dit... Ce film, c'est Hannibal Lecter qui a Alzheimer et qui finit par en être touchant. Alors, en tout cas, on joue, parce que, évidemment, c'est un peu humoristique de dire ça, mais on joue comme effectivement avec l'image qu'on a, le vécu qu'on a en tant que spectateur avec Anthony Hopkins, et ça va même jusqu'à lui donner au personnage son prénom. Vous jouez avec l'image qu'on a de lui.
Oui, je voulais jouer avec l'image qu'on a de lui, et ça crée des attentes chez le spectateur, et je voulais jouer de ces attentes-là. Et d'ailleurs, le film est... commence comme s'il s'agissait d'un thriller psychologique. Donc on a l'impression de savoir où l'on est, et soudain le film chavire sur un autre territoire. Mais pour moi, ça faisait écho à ce que peut-être les familles expérimentent dans leur intimité. Vous savez, quand on connaît bien quelqu'un, que ce soit sa grand-mère ou sa mère ou son père, et puis soudain, à la défaveur de ce processus de dégénérescence, on en finit par ne plus vraiment reconnaître cette personne, et on voit cette personne devenir un autre. Et je voulais que... on est un peu la même expérience, c'est-à-dire on connaît Anthony Hopkins grâce à tous les films qu'il a fait. Il a toujours été sur les écrans, il appartient à l'histoire du cinéma. Et soudain, on découvre un autre visage et un autre acteur. Puisque je ne suis pas allé le voir pour lui demander de faire ce qu'il avait déjà fait, ou je ne lui ai pas demandé de refaire ce pourquoi on sait qu'il est génial. Il s'agissait de... En tout cas, le défi pour lui et pour nous, c'était d'explorer un autre territoire émotionnel et d'oser aller dans cet endroit d'extrême vulnérabilité, d'extrême fragilité et presque d'extrême vérité. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il soit protégé par un personnage de fiction. C'est pour ça que le personnage s'appelle Anthony. Et il ne s'agissait pas pour nous, en préparant ce film, de fabriquer un personnage et de tenter d'imiter ce que ça pourrait vouloir dire d'être un homme âgé avec cette maladie. On s'est débarrassé de ces tentations-là. Et je lui ai tenté simplement d'être lui-même en face de la caméra et pour que les émotions qui le traversent soient profondément les siennes et que le sentiment de mortalité qui est finalement le sujet de ce film, que ce soit vraiment le sien et qu'il explore à travers ce film des émotions, des peurs et une sensation qui soit vraiment aussi sincère et aussi profonde que possible.
C'est quelqu'un qui se livre, qui se confie. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on discute de la vie en déjeunant, ou c'est un grand professionnel qui vient sur le plateau et qui est là pour bosser?
Non, Anthony Hopkins, c'est un être très singulier, très à part. C'est un artiste. Il peint, il fait de la musique, il est passionné par le cinéma, évidemment. Mais c'est aussi quelqu'un de très généreux qui raconte beaucoup d'anecdotes sur sa carrière, sur les acteurs et aussi sur la vie. Au sens presque philosophique du terme. Il a 83 ans, et c'est-à-dire qu'il a la possibilité de regarder sa propre vie, mais la vie avec un regard distancié mais engagé. Et je crois qu'il a voulu faire ce film chargé de tout ça. Il a voulu faire plus qu'un film avec ce film. Il a voulu toucher la fragilité de la vie, raconter à quel point ça a de la valeur d'être vivant, d'être en vie. Et voilà, de convoquer sa mélancolie, mais aussi sa vitalité. C'est un homme qui a beaucoup de vitalité.
Vous le suivez sur les réseaux sociaux, non ? Il n'y a pas beaucoup, déjà, de manière générale, entre guillemets, de seniors qui s'amusent autant sur les réseaux sociaux. Et lui, il se lâche, quoi.
Non, non, il a beaucoup de créativité, d'énergie, de puissance même. Et je crois que à travers ce film, il a pu raconter voilà, cet autre visage qui est le sien. Je crois qu'on ne lui connaissait pas. Et que c'était tout le pari de faire ce film-là. C'est-à-dire d'aller dans l'inconnu pour voilà, découvrir cette autre part de lui-même.
Vous faites le fils maintenant, c'est votre projet, c'est sûr maintenant, c'est le projet qui vient après.
Oui, enfin, rien n'est sûr dans cette époque, mais j'espère tourner ce film cet été, oui.
Ah, dès cet été ? Donc avec Hugh Jackman, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire que le père fait partie d'une trilogie, ouais, qui comptait aussi le fils et la mère, et mon désir le plus intense, c'était de faire, après The Father, de faire un autre film de cette trilogie, c'est The Son, que normalement je tourne cet été, oui.
Vous avez déjà choisi le jeune acteur, le personnage du fils ?
Et j'ai cherché... longtemps ce jeune acteur, et je l'ai trouvé il y a quelques jours. C'est un jeune Australien de 17 ans que pour l'instant on ne connaît pas.
D'accord.
Mais non, je suis sûr que dans deux ans.
C'est quoi son nom ? Vous pouvez me le dire ?
Non, pas encore.
Et vous ferez la mère aussi ?
Je sais pas. Vous savez, faire un film, c'est la somme de tellement de travail, de désir, il faut le faire. On ne peut le faire qu'en ayant très envie de le faire. Donc pour l'instant, je suis complètement et entièrement engagé pour The Son, mais je ne sais pas ce qui viendra derrière.
Ma toute dernière question, Florian, la question que je pose à tous mes invités, est-ce que pour vous, le cinéma, c'est la vie en mieux ?
En tout cas, c'est une intensification de la vie. Je ne sais pas si c'est en mieux, mais ce que je trouve bouleversant au cinéma, c'est de pouvoir vivre des expériences qui ne sont pas les siennes et qui deviennent les siennes. C'est-à-dire on se les approprie. Et en fait, on agrandit notre expérience de la vie, notre connaissance de la vie, ça ouvre le cœur et l'âme. Et je pense que c'est le grand mérite du cinéma, c'est que ça élargit notre propre vie.
Okay. Merci beaucoup, Florian Zeller. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Vous venez d'écouter le 5e épisode du podcast Le cinéma, c'est la vie en mieux avec Florian Zeller. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. N'hésitez pas à le liker, à le partager et à en parler autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, bonne séance de ciné.